France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous pour ce deuxième rendez-vous de Solae, le carême protestant. En partenariat avec la Fédération protestante de France et les éditions Olivetan, la paroisse de l'Église protestante unie de l'Annonciation a confié cette année les conférences du carême protestant 2026 à la pasteur Nathalie Chaumet, pasteur à Paris dans l'Église protestante unie de l'Étoile. Autour du thème « L'audace de vivre, des gestes pour espérer », Nathalie Chaumet nous propose un chemin à partir de l'évangile de Luc. Des gestes simples, fragiles, risqués, qui disent un choix, celui d'espérer envers et contre tout. Des gestes qui ne relèvent pas d'un passé figé, mais qui viennent aujourd'hui encore nourrir notre courage d'être sur le chemin de Pâques. Pour nous accompagner musicalement dans cet itinéraire radiophonique, le talent et la harpe de Pauline Griffith et la lecture des passages bibliques par Florence Guémy. Après un jeté de filet la semaine passée, des hommes aujourd'hui montent sur un toit, puis descendent d'un paralysé au travers des tuiles. Quand tout semble bloqué, comment inventer encore des chemins de vie ? Bonjour Nathalie.
Bonjour Jean-Luc.
Alors Nathalie, la semaine dernière, nous étions partis à la pêche. Aujourd'hui, à quoi nous invitez-vous ?
Aujourd'hui, Jean-Luc, je vous propose d'emboîter le pas d'un petit groupe de brancardiers. Nous allons d'une certaine manière leur prêter main forte. Nous sommes quelques versets après l'appel des disciples et la pêche miraculeuse. Voici que des hommes portant une personne paralysée tentent d'accéder à Jésus.
Eh bien, écoutons cette histoire. Elle se situe dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5 et dans un premier temps, les versets 17 à 19 avec Florence Guémy.
Un de ces jours-là, Jésus enseignait. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était sur lui pour réaliser des guérisons. Des hommes arrivèrent, portant sur un lit une personne qui était paralysée. Ils cherchaient à la faire entrer et à la placer devant lui. Et n'ayant pas trouvé par où ils pourraient la faire entrer, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et la firent descendre au travers des tuiles avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus.
Nous nous arrêtons donc momentanément dans notre histoire à cet endroit, car je crois, Nathalie, que c'est sur ce geste, celui des porteurs dégageant une ouverture dans le toit et descendant cette personne paralysée, que vous vouliez attirer particulièrement notre attention.
Oui, car ces gestes donnent à la fois, je trouve, sa dimension d'inventivité, sa dimension d'audace. Il faut souligner d'emblée que ces gestes sont précédés par un périple hasardeux, où chaque effort a compté.
Pasteur Nathalie Chaumet, je crois que cette histoire a pour vous, en plus d'ailleurs, une saveur un peu particulière.
Eh bien, parmi toutes les histoires de l'Évangile, Jean-Luc, oui, celle-ci a pour moi un goût mêlé d'enfance, d'espérance, de joie. Un goût d'enfance parce que je me revois toute petite imaginant les amis du paralysé montant sur le toit. Et j'étais saisie de stupéfaction par l'audace de ces porteurs. Quoi ? Ils ont osé braver la foule, monter sur le toit. J'imaginais qu'il fallait une force incroyable pour agir ainsi, et surtout une amitié indéfectible pour la personne malade. Alors, dans ma bibliothèque biblique enfantine, cette histoire faisait donc partie du best-of, de celle que j'aimais entendre raconter encore et encore.
Alors, je vous arrête juste une seconde, Nathalie, car j'avais, j'imagine, le même livre dans ma bibliothèque, avec le même genre de réaction d'ailleurs.
Eh bien voilà, quelle magnifique histoire, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, à l'écoute donc de ces récits, je reste toujours, même adulte, saisie par l'espérance, parce qu'il y a du mouvement dans cette vie, du possible qui jaillit dans l'impossible. Et aussi, bien sûr, parce qu'elle se termine par un happy end et qu'il est très réconfortant pour les lecteurs de tous âges de savoir que les efforts des amis n'ont pas été en vain. Mais ce n'est pas parce que cette histoire a pour moi un goût d'enfance qu'il faudrait croire que c'est une histoire enfantine. Tout d'abord, Jean-Luc, c'est l'une des plus belles pages de l'Évangile sur la solidarité. Et c'est aussi une histoire exigeante qui pointe comment nos attitudes peuvent faire vivre, donner de l'élan ou au contraire étouffer la vie, la scléroser, voire la paralyser.
Nathalie, si les actions de cette histoire sont frappantes, elles se passent dans un cadre général très vague. L'un des éléments qui frappe possiblement d'ailleurs le lecteur, c'est l'anonymat des personnages. Nous ignorons plein de choses. Alors, qui était le malade, qui étaient ses amis, et même chez qui Jésus résidait.
Oui, c'est vrai, Jean-Luc, il y a beaucoup d'inconnus dans ce récit d'imprécision. Pour tout repère temporel, Luc dit un des jours, voilà, qui est vague, et les personnages restent anonymes.
Et pourtant, chacun d'eux va jouer un rôle d'importance.
Par ordre d'arrivée dans l'histoire, il y a d'abord Jésus. Luc nous raconte qu'il enseigne et accomplit des guérisons. Sa renommée semble être croissante car il y a des pharisiens, des docteurs de la loi qui sont venus, nous dit-on, de tous les villages de Galilée, mais aussi de Judée jusqu'à Jérusalem. Luc nous décrit un parterre de religieux et nous devinons donc que cette guérison va être emblématique d'un enjeu théologique de taille. Le mot à mot du grec nous dit que ces pharisiens et ces docteurs de la loi sont assis et nous verrons que cela n'est probablement pas anodin. Mais dans une première lecture, nous pouvons simplement penser que Jésus enseignant, les voici à l'écoute.
L'histoire nous entraîne ensuite à l'extérieur de la maison, vers laquelle s'acheminent des hommes en train de porter sur un lit un être humain, une personne qui est paralysée.
Voici donc une personne, un humain, dit le mot à mot, probablement un homme, car une femme n'aurait pas été portée ainsi devant Jésus et les religieux, qui, nous dit Luc, est paralysée. Il y a dans la manière de dénommer le malade une spécificité de Luc qui me touche beaucoup. Dans l'évangile de Marc, il s'agit d'un paralytique. Un seul mot suffit à décrire le malade. La maladie emporte tout, elle devient toute l'identité du paralytique qui est désigné par son handicap. Mais Luc prend le soin d'évoquer ce mot à mot, un humain paralysé.
D'une certaine manière, nous pourrions dire que Luc est en avance. Il s'agit d'une personne en situation de handicap et non réduite à son handicap.
Alors il nous faut quand même moduler, car dans la suite du récit, Luc parlera simplement du paralysé. Mais volontairement ou involontairement, il a replacé le malade dans son épaisseur d'être, dans toute la richesse de son humanité. Alors intéressons-nous maintenant aux porteurs. D'eux, nous ne savons presque rien, pas même combien ils étaient. À tel point que plusieurs éditions choisissent ici de traduire par « des gens », expression qui véhicule donc un parfait anonymat.
Si nous ne savons rien de ces gens, de ces porteurs, c'est bien que l'important n'est pas dans leur identité, en tout cas dans leur prénom, dans leur histoire, dans le village ou la famille auquel ils appartiennent.
Oui, l'important est ailleurs. Toutes ces inconnues resserrent la focale sur le seul élément qui nous est raconté, la manière dont. Des gens, donc, vont s'allier pour constituer un corps improvisé solidaire au service d'un autre qu'eux-mêmes, au service d'une personne malade. Les voici en action, une action physique, difficile, porter un lit, avec un malade dessus. Ainsi, ce qui les définit, c'est leur agir. Ce qui est nommé ici, Jean-Luc, ce n'est pas leur identité. Ce qui est nommé, c'est cette alliance solidaire à la force des bras, au rythme des pas lourds, trébuchants, qui ouvre un chemin.
Si ces porteurs sont anonymes, leur engagement nous permet cependant de déduire quelques caractéristiques de leur histoire qui font sens pour nous aujourd'hui.
Oui, de leur engagement, nous pouvons en effet induire deux éléments qui nous interpellent dans notre rapport à autrui. Le premier, c'est que ces porteurs, ces gens donc, étaient des personnes capables de compassion. Elles étaient des personnes empathiques, pour employer un mot d'aujourd'hui. Elles n'étaient pas sourdes ou indifférentes à la souffrance d'autrui. De nos jours, l'émotion est parfois stigmatisée. Pour reprendre une image empruntée à Virginia Woolf, nous pourrions dire qu'aujourd'hui, nous cherchons parfois davantage à nous forger une peau de rhinocéros qu'à nous placer à l'écoute des besoins, des émotions des uns et des autres. Il faut dire que sur les réseaux, actuellement, nous recevons des nouvelles de toute la Terre et nous pouvons être submergés par le raz-de-marée des drames relayés. Cependant, si l'émotion nous saisit, voilà qu'il nous suffit de balayer l'écran d'un geste rapide pour qu'un contenu plus riant nous soit proposé. Ce flux d'images nous entraîne, et je dirais même nous exerce dramatiquement à l'indifférence.
Alors ce sont donc des personnes capables de compassion, des personnes que l'on pourrait qualifier d'empathiques, mais elles ne sont pas seulement empathiques.
En effet, ce sont aussi des personnes chez qui la compassion ou l'empathie suscitent un ressort d'action. Et c'est pour moi l'un des points essentiels de cette histoire. En effet, nous pouvons avoir le cœur serré devant une personne souffrante sans pour autant nous libérer de nos obligations pour nous intéresser à elle. Ce que nous raconte l'histoire ici, ce n'est pas seulement une empathie, c'est un engagement de soi au service d'autrui. Il me semble ici que l'effacement de l'identité des porteurs relève d'une bonté en acte qui est souvent passée sous silence, mais qui transforme une réalité. Je dirais que la solidarité entraîne une désorientation de soi-même envers et pour autrui. Une désorientation au sens d'une vie réorientée, non plus seulement vers soi, mais vers autrui.
Alors tout cela est bien beau, mais dans notre histoire, cette solidarité va se heurter à ce que l'on pourrait qualifier de mur, et pas n'importe quel mur, c'est celui de la foule qui empêche le passage. Malgré la détermination et l'engagement des amis du paralysé, Nathalie, voilà qu'il est clairement impossible d'accéder à Jésus.
Oui, Jean-Luc, et c'est le temps du presque. Le chemin est presque accompli, les amis ont presque touché au but, le malade pourrait presque voir Jésus. Mais ce n'est pas un presque qui précède la réussite, comme lorsque nous disons « nous y sommes presque ». Non, c'est un presque qui a le goût de l'échec, comme une cible manquée, un presque qui empêche de penser au futur avec joie, de s'y projeter, un presque qui renvoie dans l'hier.
C'est terrible ce presque, et terriblement frustrant. Voilà donc que la bonne volonté, la solidarité se retrouve à l'épreuve du réel. Alors que faire ? Abandonner ou persévérer ?
Eh bien, le petit passage merveilleux de ce récit, celui qui lui donne son sel, celui qui fait qu'on n'oublie pas cette histoire, réside dans cette inventivité des amis. Le chemin est bloqué, qu'importe, ils vont trouver une astuce. Puisque accéder à Jésus est impossible par la porte, ils vont grimper sur le toit, ils vont dégager les tuiles et descendre la personne paralysée au travers de l'ouverture. Ils font finalement ce que tous les conseillers en management proclament, penser en dehors du cadre ou de la boîte. Ils sortent de l'habitude et des usages. Ainsi, la solidarité des amis n'est pas seulement empathique et agissante. Elle est aussi persévérante et inventive. Et je crois, Jean-Luc, que cette histoire est source d'espérance pour nous. Combien de fois ne sommes-nous pas face à des voies qui nous paraissent sans issue, des projets qui n'aboutissent pas, des murs qui s'élèvent sur notre chemin ? Nous voici invités à prendre des chemins de traverse.
Alors sans doute, mais ne pensez-vous pas que c'est quand même aller un peu trop vite, Nathalie ? Alors certes, c'est un geste d'une audace incroyable, mais rien n'est encore accompli. La personne est descendue devant Jésus, mais elle n'est pas pour autant guérie.
C'est vrai, mais eux, les porteurs, ont entrepris tout ce qui leur était possible. Et c'est d'ailleurs en voyant leur foi que Jésus va s'adresser à la personne paralysée. Et je m'arrête un instant sur cette parole, mot à mot, ayant vu leur foi. Imaginez, Jésus est au milieu d'un parterre de religieux, de sachants, de docteurs, de maîtres en catégorie du bien et du mal, et la foi qu'il voit, la foi qui est mise en avant, nommée, reconnue, c'est la foi des porteurs. Alors qu'est-ce que la foi ? Bien souvent, nous la pensons premièrement comme un ensemble de dogmes auxquels adhérer. Et lorsque ce socle de croyance est remis en cause, alors nous pensons que nous avons perdu la foi ou que nous sommes hors du champ de la foi, lorsqu'elle est conçue comme une vérité à détenir. Mais dans notre histoire ici, les porteurs étaient bien loin de toute conception dogmatique de la foi. Qui était Jésus pour eux, nous n'en savons rien. Mais nous savons que la présence de Jésus dans la maison, avec sa réputation de guérisseur, a ouvert suffisamment d'espérance pour qu'ils se mobilisent et se mettent en route. Ainsi, nous ne savons pas si ces porteurs croyaient que Jésus était un prophète, un guérisseur ou le Messie. Mais leur foi, au sens de ce mélange de confiance et d'espérance qui génère un élan, a débordé toute catégorie de pensée pour susciter cette dynamique solidaire. Et je crois que c'est cette dynamique solidaire que Jésus a vue, cette solidarité empathique, agissante, inventive et persévérante.
Nous pourrions presque dire que ces porteurs se sont encordés aux malades jusqu'au bout. Cet abras-le-corps de la solidarité, eh bien bon nombre de nos expressions l'évoquent. Nous disons souvent par exemple l'importance de s'épauler, de tendre la main.
Ou de prêter main forte, de faire front, c'est vrai, de donner un coup de main, ouais. Ou encore de mettre la main à la pâte, par exemple. Voilà autant de manières implicites de nous rappeler que la solidarité est un engagement de soi, parfois coûteux en termes d'attention à l'autre et de force déployée.
Nathalie, cette, ou plutôt ces histoires, nous disent aussi que l'engagement solidaire n'a de sens qu'à l'épreuve du temps.
Oui, c'est la continuité de l'agir qui va permettre à la vie de ressurgir. Un peu d'ailleurs comme dans l'histoire du bon samaritain. Et cette continuité apparaît dans notre histoire. Le geste où les porteurs descendent la personne blessée par le toit couronne l'entreprise de succès, mais il est l'aboutissement de cet engagement commencé peut-être au petit matin lorsque les porteurs ont porté le lit à bout de bras. Et cette continuité de l'agir, elle s'inscrit dans le temps, mais aussi dans l'articulation les uns aux autres. Et je pense à toutes les équipes qui se relaient auprès des personnes en fragilité pour éviter une rupture d'accompagnement, aux bénévoles qui s'engagent chaque semaine, parfois chaque jour, pour que des familles ne restent pas sans manger. Je pense à l'engagement des équipes soignantes auprès des malades. La solidarité, nous dit cette histoire, nécessite une continuité de temps et un soutien partagé. Comment nous-mêmes pensons-nous nos solidarités dans ce double défi de l'articulation plurielle et de sa continuité dans le temps ? Voilà les questions que nous pose ce récit. Aujourd'hui, l'exigence de vitesse, de réussite immédiate est telle que parfois elle malmène nos engagements solidaires. Ordonner un panier garni pour vivre ce jour à une famille est un premier soutien indispensable à l'instant, mais pour envisager une sortie de la misère, il faut aussi penser le temps long, aider par exemple les enfants à surmonter les difficultés scolaires pour permettre peut-être un jour le passage au travers un autre toit, un autre plafond social celui-ci.
Après cet instant musical, l'Andantino de Jan Ladislav Dussek, nous aurions pu nous en arrêter là, avec cette magnifique solidarité mise en œuvre. Mais voilà que l'histoire va prendre un tournant inattendu. Alors Florence, eh bien, je vous invite à nous lire la suite de l'histoire.
Et ayant vu leur foi, il dit à la personne paralysée, « Tes fautes t'ont été remises. » Les scribes et les pharisiens se mirent à débattre. « Qui est-il, celui-ci, qui dit des blasphèmes ?» Qui peut remettre les fautes, sinon Dieu seul ? Ayant connu leur débat, Jésus leur demanda : De quoi débattez-vous dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire « Tes fautes t'ont été remises » ou de dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de remettre les fautes, il dit au paralysé : Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et va dans la maison. Aussitôt, il se leva devant eux, prit le lit sur lequel il était couché et partit vers sa maison en glorifiant Dieu. Une stupeur les saisit tous. Ils glorifiaient Dieu et remplis de crainte, ils disaient « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui ».
Alors après la magnifique solidarité que ce geste met en avant, nous voilà soudainement à l'arrêt avec la personne malade au pied de Jésus.
Oui, nous voici à l'arrêt, empêtrés dans un enjeu théologique de taille, celui de l'association entre la faute spirituelle, qui est le plus souvent traduit par le mot péché, et la maladie ou le handicap. En effet, la première parole que Jésus adresse à cette personne malade n'est pas « lève-toi et marche », mais « tes fautes t'ont été remises ». À première vue, cette réponse peut sembler inappropriée, culpabilisante, n'est-ce pas, implicitement imputée à la maladie une cause spirituelle qui relèverait donc de ce péché.
C'est le même questionnement qui est d'ailleurs posé dans l'évangile de Jean lorsque Jésus guérit l'aveugle de naissance. Et dans cet autre récit, ce sont les disciples qui le questionnent. Alors, est-ce lui ou ses parents qui ont péché ?
dans la société de l'époque en l'absence de causes tangibles face au mystère du mal, de la maladie, du handicap. Considérant le peu de connaissances médicales, on imputait à la maladie une cause religieuse liée à la faute devant Dieu, ce que nous appelons donc le péché. La maladie était regardée comme une punition divine. Le malade était donc doublement paria, incapable de prendre part à la vie sociétale. Il était aussi considéré comme coupable, marqué dans sa chair d'une faute spirituelle donc. Or, je crois que Jésus fait ici le contraire. Je crois qu'il décorrèle, dissocie la maladie de la faute spirituelle. Jésus annonce à cette personne que telle qu'elle est, c'est-à-dire malade, paralysée sur son lit de grabataire, eh bien, elle est pleinement participante de cette alliance de grâce que le Christ vient nous manifester.
Pasteur Nathalie Chaumet, pensez-vous que nous serions complètement délivrés de cette manière de penser ?
Eh bien, ce réflexe de pensée, Jean-Luc, qui associe la maladie à une punition divine, revient parfois au galop lorsque nous traversons des tourmentes. Vous savez, nous nous écrions parfois « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu lorsque nous avons bien des difficultés ?» Eh bien, ce n'est pas si facile d'échapper à cette logique d'un malheur rétributif de la faute. Jésus fait sortir la personne malade de cette voie sans issue. Tes fautes ont été remises, pardonnées, c'est un déjà-là de la grâce telle qu'elle est, c'est-à-dire paralysée, la personne est intégrée dans cette alliance de grâce. Quelle délivrance intérieure! Et c'est dans un second temps seulement que Jésus l'invitera à prendre son lit et à marcher.
Mais voilà que la guérison semble soudainement compromise, que les espoirs des porteurs, malgré leur succès, risquent d'être balayés.
Oui, parce que la parole de Jésus est identifiée à un blasphème. Et voilà que la personne paralysée soudainement perd toute sa place de sujet et devient à son corps défendant, c'est le cas de le dire, la source d'une controverse dont elle n'est même plus l'objet mais seulement le prétexte. Et ce geste emblématique des porteurs qui ont descendu la personne malade par l'ouverture du toit, qui est venu donc couronner de succès cette entreprise hasardeuse, est à ce moment-là relégué à l'arrière-plan au risque de l'effacement.
Et nous découvrons que la personne sur son lit n'est pas la seule à être paralysée.
Souvenez-vous, nous avions dit au début de l'évangile que les religieux venus de tous les villages alentours et même de Jérusalem étaient assis dans la maison. Leur posture d'immobilité contraste avec l'agir solidaire des amis, avec leur mobilisation de chaque pas. Au lieu d'accueillir la personne en souffrance, ils se détournaient d'elle pour contester les paroles de Jésus. Et le récit vient nous questionner avec une très grande finesse. Il interroge alors, je crois, nos propres postures, nos préconçus, les arrêtés de nos vies, ce sur quoi nous élevons nos existences sans vouloir en démordre, au risque de nous enfermer en nous-mêmes dans la tour d'ivoire de nos dogmes, au risque de la déliaison. Justement, dans notre histoire, voilà que cette personne, jusque-là sur le bas-côté de la société, du fait de son handicap, glisse de nouveau sur le bas-côté, celui de la conversation cette fois-ci.
Mais alors, Nathalie, si les préconçus de nos pensées viennent empêcher parfois la rencontre de vivant à vivant, pourquoi nous accrochons-nous à nos postures? Pourquoi restons-nous ancrés sur ces arrêtés de la vie?
Eh bien, peut-être que nous avons peur, faute de posture, de perdre toute attitude, peur des questions qui pourraient surgir ou ébranler notre bien-pensance. Il faut lire, Jean-Luc, le magnifique livre de Marion Muller-Collard, « L'autre Dieu », qui évoque la manière dont nous pouvons faire de la foi un enclos, dont Dieu serait le gardien, un système rassurant qui nous permet de dormir du sommeil du juste, alors que, rappelle-t-elle, l'irréductible menace du sort plane, ne nous en déplaise, sur chacune de nos vies.
Nathalie, si vous avez retenu ce geste des porteurs qui descendent jusqu'auprès de Jésus, c'est bien pour mettre en lumière la solidarité, une mise en lumière renforcée par ce contraste. D'un côté, les efforts déployés avec imagination des uns et de l'autre, la posture statique arrêtée des autres. Mais voilà que Jésus appelle la personne malade à se lever, à prendre son grabat et à rentrer chez elle.
Comme la parole peut enfermer, elle peut aussi libérer. À l'ouverture verticale du toit succède l'ouverture horizontale. La personnalité se lève, elle sort par la porte. Finalement, ces porteurs, en réalisant cette ouverture dans le toit, ont brisé une forme d'huis clos, réintroduit du souffle, de la circulation, du mouvement, relié le ciel et la terre, rappelé que la foi n'est pas un enclos, mais un élan au service de la vie, et qu'il est possible de se relever du malheur. Voilà, c'est à vivre que ce récit nous appelle, à vivre tel que nous le pouvons, à prendre à bras le corps ce qui nous paralyse pour avancer même qu'un cas sur les chemins de notre existence.
Alors Nathalie, cette magnifique histoire qui est permise par cette solidarité inventive et persévérante des amis, cette fois en acte, et il me semble extrêmement inspirante pour nous aujourd'hui. Elle encourage notre engagement solidaire. À quel ancrage éthique pourrions-nous la relier ?
Dans un ouvrage passionnant sur la bonté humaine, Jacques Lecomte, docteur en psychologie, évoque plusieurs ancrages éthiques possibles, dont cette éthique de la sollicitude. Une éthique de la sollicitude, Jean-Luc, il me semble que c'est bien ce dont cette histoire nous parle. La sollicitude, c'est un beau mot en français qui désigne les soins attentifs, affectueux à l'égard de quelqu'un, une vigilance à autrui qui conduit à prendre soin d'elle. Alors revenons au fait que les porteurs ne sont pas nommés. Il me semble que l'anonymat fait de leur sollicitude non pas une vertu rare, héroïque, mais une manière de vivre. Et leur anonymat fait place à tous ceux, toutes celles qui sont engagés aujourd'hui au présent ou s'engageront pour autrui.
Nathalie Chaumet, l'anonymat de cette histoire, ces imprécisions finalement, font de cette histoire d'hier une histoire de toujours, une histoire à continuer d'écrire, de vivre, aujourd'hui encore.
Oui, car la sollicitude fait partie de notre capital humain et nécessite d'être mise en valeur par une éducation à l'écoute, à la coopération, à la solidarité, par une éducation qui favorise une culture de l'altruisme et de la bienveillance. Mais ne nous méprenons pas, Jean-Luc, tout comportement aussi altruiste qu'il soit est également marqué par une forme de péché, d'insuffisance, de limite dans nos difficultés à aimer. Et les engagements altruistes, il faut le dire, peuvent être aussi l'expression d'une quête narcissique redoutable, le besoin d'être distingué par le bien accompli. Et les églises, sous couvert qu'elles évoquent Dieu, n'échappent en rien à cela. Mais cependant, ce n'est pas parce que nos actes, fussent-ils de solidarité, de sollicitude, ne sont jamais donc complètement limpides qu'il faudrait y renoncer. Même imparfaite, la solidarité est le socle véritable de toute société. Dans solidaire, il y a solide, et oui, je suis convaincue qu'une société solidaire est une société solide.
Autre référence, Cécile Fürstenberg, infirmière et autrice d'ouvrages sur la fin de vie et sur le deuil, écrit aussi ceci. La sollicitude est un mouvement, elle tend vers autrui, elle est spacieuse, dynamique, en action, chaleureuse.
Voilà, tous ces adjectifs sont merveilleusement illustrés par cette petite histoire qui nous raconte combien la sollicitude engendre cette solidarité empathique, agissante, inventive et persévérante. Mais je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur cette idée que la sollicitude est spacieuse. J'aime, Jean-Luc, cette idée que la sollicitude recrée de l'espace. Elle redonne place à chacun chacune, elle sort la personne malade de l'isolement. Et c'est ce que manifestent ces ouvertures dans le récit, l'ouverture du toit, et le passage que le paralytique trace en sortant par la porte, en frayant au cœur de la foule un chemin. À la fin de cette histoire, la solidarité qui est pour ainsi dire devenue le personnage principal a disparu. Elle a permis à la vie d'avoir sa chance. Nos protagonistes ne sont pas nommés, mais c'est peut-être pour mettre en lumière ce personnage éphémère de la solidarité qu'ils articulent à chaque pas. Ce corps n'est pas figé, n'est pas à reproduire de cette manière-là. Il est sans cesse à inventer. Il naît et il renaît sous des formes diverses. D'autres liens, d'autres forces, d'autres alliances sont appelés à jaillir en leur temps et en leur lieu. La solidarité des amis, Jean-Luc, ce n'est pas celle d'hier. Elle est à vivre aujourd'hui.
Eh bien, merci Nathalie, merci Florence Guémy. Porter l'autre quand il ne peut plus marcher seul, c'est faire de la solidarité un acte de foi, un geste qui nous rappelle que l'espérance se vit rarement solitaire. Mais nous n'en sommes qu'au début de cette longue et belle réflexion sur cette audace de vivre et ces gestes pour espérer. Rendez-vous dimanche prochain, même lieu, France Culture, et même heure, 16h. Soleil et le carême protestant vous était proposé par la Fédération protestante de France en partenariat avec l'Église protestante unie de l'Annonciation à Paris. Merci à Thomas Jost pour la réalisation et à Dalia pour la prise de son. Émission que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture ainsi que sur l'application Radio France. Les éditions Olivetan éditent comme chaque année un livre, Des gestes pour espérer, qui correspond à ces conférences avec quelques ajouts complémentaires. Il est en vente au prix de 15 euros plus les frais de port et les commandes peuvent être réalisées en ligne sur le site internet www.éditionspluriel.olivetan.com. L'ouvrage sera envoyé directement par voie postale à l'issue des conférences. Et maintenant sur France Culture, je vous laisse avec le Carême catholique.